Messieurs, nous allons donc commencer cette table ronde qui aura la particularité de se dérouler sans table et qui portera sur les dépenses de santé. Donc, comme vous le savez tous, depuis la fin des années 70, le déficit de l'assurance maladie est un problème récurrent de l'économie française. La maîtrise des dépenses de santé est d'ailleurs devenue un problème essentiel dans tous les pays développés. Et ceci, d'autant plus qu'elle représente un poids important dans le PIB qui est supérieur à 10% en France. Alors, face à ce déséquilibre récurrent, les décideurs politiques ont mis en place des plans. Chaque ministre de la Santé et souvent certains premiers ministres ont attaché leur nom à des plans de réforme de la sécurité sociale, de maîtrise des dépenses de santé. Pendant longtemps, ces plans ont utilisé essentiellement deux instruments. D'abord, un ajustement macroéconomique, on augmentait un peu les cotisations, on réduisait un peu certains remboursements. Et d'autre part, des méthodes de rationnement, comme le numerus clausus, la carte hospitalière, le budget global. Ces politiques étant fondées sur le postulat que l'offre créant la demande, il fallait rationner. Depuis quelques années, on a commencé à modifier la caractéristique générale de ces politiques en mettant en place plutôt des politiques incitatives qui visent à modifier les comportements des patients et des offreurs de soins en ce qui concerne les mécanismes d'allocation et de paiement auxquels ils font face. En 2004, on a commencé à introduire la tarification à l'activité dans les hôpitaux qui se substitue progressivement au budget global. On a créé ensuite le parcours de soins en pénalisant financièrement le recours direct aux spécialistes. On a mis en place des incitations à l'utilisation de médicaments génériques avec là aussi des pénalisations financières liées à des tarifications à prix de référence. On a aussi agi du côté des patients en introduisant des franchises payées pour chaque acte. Alors, ces méthodes ont souvent été adaptées de politiques qui avaient été retenues dans d'autres pays, en particulier dans le monde anglo-saxon. La tarification à l'activité des hôpitaux, c'est la version française de la tarification à la pathologie introduite aux États-Unis par Medicare, qui est un assureur public. Le médecin référent est le gatekeeper anglais, bien qu'il reste payé à l'acte, alors que le gatekeeper anglais est payé à la capitation. Les franchises existent dans la plupart des systèmes qui utilisent des assurances privées. Et les tarifications incitatives, comme le remboursement différentiel des génériques, ont été expérimentées dans un grand nombre de pays. Alors, ces politiques économiques de la santé visent à modifier les comportements des acteurs, comportements des patients, comportements des offreurs de soins, comportements des pharmaciens. Alors elles appellent évidemment un approfondissement de l'analyse économique de ce secteur. Et le but de cette table ronde, c'est de mettre en évidence un peu le rôle que les économistes peuvent jouer et l'analyse qu'ils apportent à ces politiques du système de santé. Alors pour exposer ces différentes questions, la table ronde réunira M. Pierre-Jean Lancry, qui est directeur de la santé et de la mutualité sociale agricole. Pierre-Yves Geoffard, qui est directeur de recherche au CNRS à Paris Sciences Économiques et professeur associé à l'Université de Lausanne. Lise Rochette, qui est à la Haute Autorité de Santé, mais qui est aussi professeur à l'Université d'Aix-Marseille. Et Marie-Odile Carrère, qui est professeur à l'Université de Lyon. Donc, compte tenu des thèmes qu'ils vont aborder, je vais d'abord donner la parole à Pierre-Jean Lancry, qui situera le problème en analysant le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, puis à Pierre-Yves Geoffard, qui analysera les problèmes posés par l'introduction des franchises, par le bouclier sanitaire, les politiques liées à l'assurance maladie, puis Lise Rochette et Marie-Odile Carrère traiteront de l'aide à la décision en matière de santé. Donc je pense que pour que cette table ronde soit vivante, malgré l'absence de table, chacun des intervenants va parler pendant, présenter son point de vue pendant 10 à 15 minutes, et qu'il y aura ensuite des échanges entre les membres de la table ronde et avec vous. Donc je donne tout de suite la parole à Pierre-Jean.
Merci Michel. Pourquoi tu t'es rassigné?
Je veux voir, j'étais transparent.
Mais j'ai pas de transparent. En fait, c'est... Bonjour madame, messieurs. J'ai dit que j'allais traiter du projet de loi pour passer le premier, parce que tu vas faire le cadrage et là, mais je ne traiterai pas du projet de loi. Non, bon, vous savez que le système français, comme l'a rappelé Michel Bougeot, on a une administration de la santé avec, depuis 1996, un mécanique annuel de projet de loi de financement de la sécurité sociale, donc voté à partir de l'automne, discuté et voté à partir de l'automne tous les ans, et ça organise le fonctionnement du système de santé pour l'année à venir. Alors là, il a été voté par l'Assemblée nationale il a été voté en partie au Sénat, et dans les semaines qui viennent, il sera défini pour l'année 2009. C'est vrai que c'est important c'est un moment très important du secteur de la santé, parce que vous avez un objectif national de dépenses qui est défini, qui est a priori contraignant et qui déclenche, lorsque cet objectif est dépassé pendant l'année, déclenche des mécaniques de régulation, en tout cas de retour à l'objectif. Je n'allais pas traiter le PLFSS, le projet de loi, c'est qu'en fait, je voulais vous dire, à mon avis, les trois ou quatre particularités, et j'ai vu que Pierre-Yves Chauffard en développera une, entre autres, de notre système, et pour vous, et essayer de vous montrer pour quelles raisons, cette année, on a ce type de projet de loi. D'abord, l'ordre de grandeur de toutes les dépenses et l'impact macroéconomique, comme l'a rappelé Michel, et c'est 10% du PIB, c'est pas rien. Et il faut savoir, rien que pour fixer les idées, que le service de la dette en France, c'est un peu plus de 6 milliards, et que l'accroissement des dépenses qu'on autorise avec l'objectif national et sa progression d'une année sur l'autre, on est sur 150 milliards avec un accroissement à 3% bon an mal an, ce qui fait 4,5 milliards. Donc vous voyez qu'on se bat, on négocie, il y a des arbitrages invraisemblables pour obtenir 3-4 milliards de dépenses supplémentaires lorsqu'on a un service, le service de la dette, hein, je crois, c'est-à-dire l'intérêt dépasse les 6 milliards. Donc sur la question de l'équilibre et de comment on peut obtenir que les recettes qui structurellement progressent de niveau à peu près PIB et masse salariale, et les dépenses progressent, elles, de 1 point à 1 point et demi, bon an, mal an, au-dessus du PIB. Donc ce déséquilibre, il n'est pas résolu aujourd'hui, et les changements de comportement qui ont été évoqués précédemment, ces questions-là mettent du temps à devenir une réalité. Donc tous les ans, dans le PLFSS, on essaye de trouver des ajustements pour régler ce problème. Et c'est le premier défi. Deuxièmement, vous avez une très forte concentration des dépenses de santé. Vous avez 5% de la population qui dépense 50%. Et en fait, il y a deux familles très différentes de consommateurs. Vous avez les gens de cet amphithéâtre, cet auditorium, on a une dépense et une progression de dépenses plutôt faible. Et puis vous avez, et on représente grosso modo 86% de la population. Et puis vous avez des gens en longue maladie, en pathologie chronique, ce qu'on appelle les ALD, les affections de longue durée, qui représentent un peu moins de 14% de la population, qui représentent 60% des dépenses, mais surtout en termes de progression des dépenses, la quasi-totalité de la progression des dépenses de santé est sur cette population, des gens en affection de longue durée. Donc, la particularité des gens en affection de longue durée, c'est d'être pris en charge à 100%. Donc, vous voyez que la dynamique des dépenses est portée par des gens remboursés à 100%. Et ce qui crée un problème, même en termes de compréhension de la solidarité, quand 86% des gens vont se dire mais nous, la situation, on les rembourse des médicaments, donc notre situation en termes de protection sociale n'est pas terrible. Et puis, si on regarde la réalité, c'est que, compte tenu de l'accroissement de ce qui est pris en charge à 100% et des pathologies de longue durée, eh bien, vous avez une prise en charge de la sécurité sociale qui continue de progresser. Donc, le problème des affections de longue durée est un problème essentiel. Le troisième point et dernier point que je voulais évoquer avant de parler du PLFSS, c'est la compréhension de notre fonctionnement de notre solidarité. Le système qui a été conçu à l'après-guerre est un système qu'on pourrait. C'est pas un système assurantiel, mais on peut quand même le comprendre si on regarde ce qui se passe dans une assurance contre d'un bien immobilier contre l'incendie. C'est pas parce qu'on est assuré qu'on va vouloir tous les ans brûler sa maison pour se faire rembourser. Bien, le fonctionnement de notre système de santé devrait être sur la même logique. Oui, nous avons un droit à la santé, c'est indéniable, c'est même une force de notre système, de nos systèmes de solidarité par rapport à d'autres pays, mais ce droit à la santé fait que l'organisation du système est conçue avec la prise en charge des malades à 100%, est conçu pour des pathologies graves, des pathologies lourdes et coûteuses. Et donc, on ne peut pas vouloir absolument tout couvrir dans les mêmes conditions. Et personne n'est riche devant la maladie, donc le système garantit, lorsque vous avez une pathologie coûteuse, une prise en charge excellente. Sans doute une des meilleures des systèmes de santé. Mais le système ne dit pas que il faut, parce qu'on a un droit à la santé, consommer tout, n'importe quoi et être remboursé. Alors, on a introduit des incitations, des mécanismes d'ajustement. Dans le PLFSS de cette année, on a essayé d'introduire une des mécaniques qui aurait pu fonctionner, notamment sur les patients en longue maladie. Et ça a été un tollé. Donc l'idée était abandonnée. C'est ce qu'on a appelé les médicaments 35 à 35. C'est quoi cette histoire? C'est que vous avez, quand vous êtes pris en charge pour une longue maladie, vous avez un diabète par exemple, bien, tous les médicaments antidiabétiques sont remboursés à 100%. Mais en revanche, si vous attrapez la grippe, les médicaments qu'on vous donnera contre la grippe, si on vous en donne, seront pris avec les taux de remboursement de droit commun. Vous n'êtes pris en charge à 100% que pour les médicaments qui sont liés à la pathologie qui vous donne droit à l'exonération du médicament directeur, et donc à la couverture à 100%. Mais pour le droit commun, vous êtes pris en charge aux conditions de droit commun. Alors, ce qui avait été proposé par l'assurance maladie, par les technocrates comme moi, c'était de dire, mais après tout, il y a des médicaments qui sont remboursés en temps normal à 35%, c'est des médicaments pour des pathologies ne présentant pas un caractère général de gravité, c'est la terminologie administrative. Quand vous avez mal au ventre, et les médicaments contre le mal au ventre sont pris en charge à 35% pour le droit commun. L'idée était de dire, même dans le cas de maladies remboursées à 100%, même si c'est un lien, ces médicaments qui ne sont pas de première nécessité, on les remboursera à 35%. Et là, vous avez une levée de bouclier, parce que le système, ça a été mal présenté, sans doute c'était peut-être pas une bonne idée, mais il y a eu une levée de bouclier 10 ans, mais on commence à toucher le remboursement des gens à 100%. On commence à s'attaquer à la prise en charge collective des pathologies. Et le gouvernement a fait machine arrière, l'assurance maladie a fait machine arrière. Et donc, ces mesures n'ont pas été proposées dans le cadre du projet de loi de financement. Donc, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce projet de loi? C'est d'abord une logique qui est pour la première fois aussi marquée, c'est de dire qu'on veut impérativement un retour à l'équilibre d'ici 2011. C'est-à-dire que vous avez une présentation de l'objectif national cette année et dans les années à venir pour obtenir un équilibre. Malheureusement, ça a été conçu l'été dernier, avec un PIB à 2,5 et une masse salariale à 3,5% sur les années à venir. Donc vous savez que la croissance ne sera pas de 2,5, la masse salariale ne sera pas de 3,5. Alors, les modifications ont été faites pendant les discussions parlementaires et effectivement on va accepter un déséquilibre d'1 milliard ou 1,5 milliard supplémentaire cette année. Et ça n'empêche que, et j'insiste là-dessus, il y a une volonté d'un retour à l'équilibre dans les 4 ans, pour une raison simple dont on pourra discuter après, c'est que de toute façon si vous avez un déséquilibre, il faut le financer. Si vous le financez, c'est soit par des dettes, soit des que vous laissez aux générations futures, soit des prélèvements obligatoires à trouver. Et c'est donc, de toute façon, il n'y a pas. C'est ce qu'on dit dans notre milieu d'économie, there is no such thing as a free lunch. Hein, ça n'existe pas, un repas gratuit, à un moment, il faut payer. Alors, les mesures qui ont été en termes de dépenses, il me reste combien de temps, Michel? Oui. Ah non, on a dit 10 à 15 minutes. Les mesures importantes qui ont été introduites, ce sont, n'oubliez pas qu'il s'agit d'une loi de financement de la sécurité sociale sur les. Moi, je vais vous parler de la partie assurance maladie. On a introduit des mesures sur je prends des points sur les dépenses de médicaments. Pourquoi j'insiste sur le médicament particulièrement, c'est que dans les postes de consommation médicale qu'on cherche à maîtriser, les médicaments ont une place de choix parce qu'il s'agit d'un bien médical prescrit qui représente on n'en a pas conscience, mais plus que les dépenses de médecins, c'est-à-dire que la collectivité consacre beaucoup plus de ressources dans la consommation de médicaments que de séances de radiologues, de tous les médecins généralistes et spécialistes. Les médicaments, c'est 20% de l'ensemble de la consommation médicale. 20%. C'est-à-dire que ça fait... 2 points, parce que la consommation c'est 10 points du PIB, donc vous voyez, ça fait 2 points de PIB sur les médicaments. Donc on a essayé de renforcer la maîtrise des médicaments avec des mesures sur les génériques. Michel Mougeot a évoqué cette incitation qu'on voulait sur. Données sur le développement des génériques, je vais vous dire celle qui est incorporée dans le PLFSS et vous verrez que ça va être pas facile d'obtenir ces changements de comportement. Le générique, donc, c'est la molécule. Vous avez un des produits avec nom de marque, vous avez de l'essence Esso, Total, etc. Et puis vous avez en fait de l'essence. Donc les noms de marque, et puis ce qui fait marcher une voiture, c'est pas Elf ou Total, c'est l'essence. Là, ce qu'on dit sur le médicament, ce qui fait marcher un médicament, c'est pas le nom de la marque, c'est la composition de la molécule, le principe actif. On a constaté que lorsqu'un produit perdait son brevet, lorsqu'il était génériqué, eh bien, le comportement de prescription des médecins changeait. C'est-à-dire que, par exemple, c'était très net sur les médicaments contre le cholestérol. Les médecins avaient des habitudes de prescription pour une certaine marque. Le jour où la marque perd son brevet et devient génériquée, eh bien, comme par hasard, ce médicament n'est plus prescrit, et ce sont, au lieu de prescrire les génériques, c'est des médicaments de marque, mais autres, donc qui sont encore sous brevet, qui sont prescrits. Donc résultat, le médicament lorsqu'il est génériqué, le générique marche, mais il marche sur un marché plus bas, parce qu'il y a une multiplication des comportements des médecins qui ne prescrivent pas les génériques, mais prescrivent d'autres médicaments de marque. Donc pour éviter cette fonte du répertoire des génériques, c'est-à-dire de la partie qui devrait donner lieu à générique, le PLFSS introduit une modalité qui devrait permettre d'élargir le générique et d'élargir la notion de médicaments qui peuvent être substitués. Alors c'est très technique, je ne rentre pas dans les détails, mais je voulais vous dire donc que on a sur le médicament une approche très importante de développer au maximum les génériques. Je vous remercie.
Donc, je donne la parole. Donc, combien de temps? 15 minutes. Bon, je vais reprendre. C'est pas du tout ce que je disais. Je vais essayer de vous remercier pour l'organisateur pour la présentation. C'est toujours un plaisir d'être à Lyon. Donc je vais essayer de développer un peu sur quelques thèmes qui ont été abordés en parlant du reste à charge. Du reste à charge, entre guillemets, parce que je vais préciser un petit peu ce qu'on entend, il y a différentes manières de le définir, et qu'est-ce qu'on peut essayer d'en dire d'un point de vue économique. Hein. Donc mon point de vue est celui d'un économiste, ça ne vous surprendra pas dans ces journées. Il faut quand même le préciser parce que lorsqu'on analyse les systèmes de soins, notamment les systèmes de santé, les politiques de santé, c'est vrai qu'on peut l'analyser de beaucoup d'angles différents. Et en général, la confrontation des différentes approches est assez instructive, assez productive. Mais là, vous allez avoir aujourd'hui des présentations très économistes et très économiques. Alors, la question qu'on peut se poser, question que j'ai chiffrée de manière totalement pifométrique à 40 milliards, enfin pas totalement pifométrique, je reviendrai un peu là-dessus, c'est comment réduire les dépenses de soins inutiles et encourager les dépenses utiles. Ça, c'est évidemment ce que tout le monde formulait en ces termes-là, tout le monde serait d'accord avec cet objectif. On n'a aucune raison de favoriser les gaspillages, on n'a aucune raison non plus il faut encourager les dépenses utiles à la santé. Le problème est évidemment qu'on ne sait pas identifier facilement ce qui est utile et ce qui l'est moins. Quand je dis on ne sait pas, c'est vrai, il concerne un peu tout le monde. C'est-à-dire il concerne le décideur politique, l'organisation du système de soins, le médecin qui va prescrire, le pharmacien qui va donner des médicaments, le patient qui va recevoir les médicaments et l'ensemble. Donc c'est très difficile de trouver un bon critère pour définir ce qui est utile et ce qui est moins. Comme l'a rappelé Michel Mougeot en son introduction, on a un certain nombre d'actions possibles, d'outils de réglementation, d'outils de régulation du système, sur l'offre de soins ou sur la demande de soins. On a tendance à distinguer ce qui relève de l'offre et de la demande, encore que dans le domaine de la santé, c'est toujours un peu délicat. On ne sait pas forcément qu'est-ce qui relève d'une décision d'offreur de soins, de médecin, et ce qui relève d'une décision des patients. Pas toujours très clair. Pourtant, c'est une distinction qu'on aimerait clarifier. Donc, sur l'offre de soins, on a tout un ensemble de mécanismes de régulation dont a parlé Michel Mougeot, les diffusions de normes de bonne pratique, de recommandations, modes de rémunération qui peuvent être différents d'un pays à l'autre, etc. Formation. Formation initiale, formation permanente. Sur la demande de soins, on a également un ensemble d'outils de régulation possible pour réguler cette demande de soins, que ça passe par l'information ou autre, mais également par la participation financière. Donc ça, c'est le point que je vais développer, sur lequel je vais centrer mon intervention, en posant d'abord deux questions. Quel est l'impact de la participation financière des usagers sur la dépense de soins?
Est-ce qu'on peut dire, quand on fait payer ou quand les patients payent une partie plus importante de la dépense, eh bien, est-ce qu'ils consomment moins? Est-ce qu'ils utilisent moins les soins de santé? Et puis surtout, quel impact ça peut avoir sur l'état de santé? C'est-à-dire, est-ce que la dépense moindre qui est engagée lorsque les gens payent de leur poche, eh bien, est-ce que c'est une dépense qui est plutôt utile à la santé, plutôt inutile à la santé, ou un peu des deux? Évidemment, la réponse, c'est un peu des deux. Je vais rappeler simplement, en passant très rapidement là-dessus, mais c'est un élément qu'il faut avoir en tête. On a, pour essayer de répondre à cette question, à ces deux questions, c'est-à-dire quel est l'impact de la participation financière, quand on parle de participation financière, c'est les franchises, le ticket modérateur, tout ce qu'on appelle les mécanismes de copaiement, donc dans lesquels l'assurance ne rembourse pas intégralement les soins de santé. Donc évidemment en France, c'est le cas, la sécurité sociale, l'assurance maladie publique ne rembourse pas l'intégralité des soins. Une partie est prise en charge par les complémentaires pour les personnes qui sont couvertes par des complémentaires, mais il reste également souvent ce qu'on appelle un reste à charge. Et donc la participation financière des usagers, tout le monde dans cette salle y est habitué. Pour essayer de voir un peu l'impact que ça a à la fois sur la consommation de soins et sur l'état de santé, il y a une grande expérience, sans doute la plus grande expérience de sciences sociales qui a jamais été réalisée dans le domaine de l'économie de la santé. Elle a été conduite dans les années 70 aux États-Unis. Ça a été une très grande enquête qui a porté sur plus de 6000 personnes et qui a réparti de manière aléatoire la population en disant eh bien, on va consulter des groupes. C'est vraiment le modèle d'un essai clinique. Si vous avez en tête un essai clinique avec où un groupe reçoit un placebo et un groupe reçoit le médicament dont on essaye d'évaluer l'efficacité, eh bien là, il y avait un groupe qui recevait, qui était couvert par un plan, un plan gratuit où tout était remboursé. Il y avait 0% de ticket modérateur. Et puis un autre groupe qui payait 25% de ticket modérateur, un autre 50%. Et un autre 95, c'est-à-dire presque tout, avec un plafond sur le montant annuel des dépenses, parce que quand même, les gens qui payaient presque toutes leurs dépenses, ça correspondait en fait à un mécanisme de franchise annuelle où quasiment toute la dépense jusqu'au plafond annuel devait sortir de la poche des gens. Et puis on a suivi ces personnes pendant 3 à 5 ans. Ça a permis de mesurer la dépense de soins ainsi que l'état de santé, et c'est un point important. L'élasticité de la demande, c'est-à-dire dans quelle mesure, si on augmente la participation financière, la dépense de soins diminue, a été évaluée à peu près à moins 0,2. Le montant est important lorsqu'on essaye ensuite de faire des calages budgétaires et de réfléchir à quel est l'optimum. Donc ça veut dire qu'il y a une vraie réponse, c'est-à-dire que quand on paye pour les soins, eh bien, quand l'usager paye pour les soins, eh bien, il utilise moins souvent le système de soins. C'est surtout vrai pour les soins, ce qu'on appelle les soins ambulatoires, c'est-à-dire la médecine de ville, les médicaments. C'est beaucoup plus faible pour les soins hospitaliers. Pour les soins hospitaliers, c'est pas la participation financière n'a pas ou très peu d'impact sur l'utilisation du système de soins. On voit bien là tout de suite qu'une interprétation de ça, c'est de dire bon, certaines dépenses de soins de ville, certaines dépenses ambulatoires, eh bien, relèvent effectivement de la décision du patient qui peut se dire bah, je me sens un peu malade, est-ce que je vais aller chez le médecin ou pas, est-ce que je vais attendre un peu. Alors ça peut être une bonne chose ou une mauvaise chose, mais en tout cas ça s'appuie sur, on voit bien que la décision du patient peut avoir une importance pour déterminer le montant de la dépense. Si on parle d'hospitalisation, en général, les décisions, les processus de décision à l'œuvre sont davantage à chercher du côté de l'offre de soins. Hein, c'est pas, et une boutade hein, qui dit c'est pas parce que la transplantation rénale est entièrement prise en charge par l'assurance maladie qu'on va assister à une explosion de la demande de transplantation rénale. Hein, c'est une boutade qui a un vrai sens. C'est pas le coût des soins a peu d'impact sur la dépense de soins hospitaliers. Je crois que c'est important à dire. En revanche, elle a un impact réel sur la demande de soins ambulatoires. Donc on peut résumer tout ça par une simple figure, hein, c'est la figure, alors je pense que c'est le graphique le plus cher de l'histoire de l'économie, puisque l'enquête, l'expérience de la Rand a coûté 80 millions de dollars à l'époque, ça ferait 200 millions de dollars d'aujourd'hui. Hein, donc ce genre d'expérience est assez coûteuse, c'est sans doute pour ça qu'elle n'a jamais été reproduite. En tout cas, ça représente en fonction du taux de copaiement, la dépense moyenne, annuel des assurés, donc entre les différents groupes, et on voit très bien que les gens qui étaient couverts avec le plan gratuit eh bien, consommaient davantage que ceux qui devaient payer une franchise de l'ordre de, à l'époque, de l'ordre de 1000 dollars par an. Bien, alors quel impact sur la santé? Parce que la question qui se pose immédiatement quand on voit ça, c'est on se dit, ben les gens qui doivent payer quasiment tout de leur poche jusqu'à un certain plafond, ils consomment beaucoup moins que ceux qui ont un accès gratuit, totalement gratuit à l'ensemble du système de soins. Au bout de 3 à 5 ans, est-ce que ça se voit? Est-ce qu'on voit des différences sur la santé? Ou est-ce que cette différence entre ces deux niveaux de consommation, est-ce que ça a acheté autre chose? Qui est un certain confort, peut-être un allègement de l'angoisse, mais pas forcément un impact sur la santé. Et bien, là, ce qu'on voit, c'est que essentiellement, il y a très peu de différence en termes d'état de santé au bout de 5 ans sur les populations qui ont été choisies. Donc, ça veut dire que la différence de dépenses, et c'est là que je reviens sur le 40 milliards, ça représentait 40 milliards de dollars de l'époque, eh bien, a acheté autre chose que de la santé. Il faut immédiatement qualifier cette interprétation des résultats. Ce n'est pas vrai sur les plus bas revenus, c'est-à-dire les populations les plus pauvres, sur certains problèmes de santé qui étaient identifiés au départ. Donc les gens qui étaient les plus pauvres et qui avaient certains problèmes de santé, ces problèmes de santé, par rapport aux gens qui étaient couverts totalement, ont eu plutôt tendance à empirer. C'est-à-dire que mais ça concerne quelques indicateurs de santé et uniquement, encore une fois, pour les plus bas revenus, essentiellement pour les personnes dans le bas de la distribution de revenus, c'est-à-dire dans les 5 à 10% des revenus les plus bas. Voilà, donc le bilan qui est fait par les auteurs de cette étude, c'est de l'ordre de 40 milliards de différence entre le plan avec où la personne paye beaucoup de sa poche et le plan gratuit, c'est-à-dire de l'ordre de 15 à 20% de la dépense de soins. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de parler de l'épaisseur du trait, hein. On est en train de parler d'une part considérable de la dépense de soins pour laquelle on n'est pas capable de dire, en dehors encore une fois de populations très particulières et sur certains indicateurs de santé, pour lesquels on n'est pas capable de dire si ça a un impact sur la santé ou pas. Bien, donc la question que ça pose, c'est une question de évidemment, on serait tenté en voyant ça de dire, augmentons la participation financière des soins. Maintenant, on sait très bien que l'assurance maladie vise à financer un accès aux soins et à garantir l'accès aux soins. Donc jusqu'où peut-on aller? Où faut-il mettre le curseur? Et quel est le type de participation financière qui peut améliorer l'efficacité du système? Là, on a affaire à un arbitrage, un arbitrage entre ce qu'on va appeler le partage des risques, mais qu'on peut aussi appeler solidarité ou accès aux soins, donc qui est garanti par une assurance la plus couvrante possible, d'un côté, et puis d'un autre côté, l'incitation qui fait que des personnes qui sont davantage couvertes, eh bien, risquent de consommer des soins qui ne sont pas tous strictement utiles pour la santé, comme l'a montré de manière assez déterminante l'expérience de la Rand. Donc, évidemment, c'est toujours un peu embêtant quand on réfléchit à l'évolution d'un système comme le système français, qui nous concerne tous, de s'appuyer sur des données issues de la population américaine dans les années 70. Donc, on aimerait bien savoir ce qui se passe en France. Eh bien, en France, malheureusement, on n'a pas grand-chose. On a quand même quelques éléments sur... on a le même fait empirique, qui est que les gens qui sont mieux remboursés ont tendance à consommer davantage de soins, mais je dirais que c'est presque une tautologie. Mais en même temps, c'est pour le meilleur et pour le pire, cet impact. En revanche, l'effet sur l'état de santé, là, à ma connaissance, hein, on n'a strictement rien. Strictement rien qui nous permet de dire la couverture par tel ou tel dispositif d'assurance complémentaire permet d'améliorer l'état de santé des gens qui en bénéficient. Même sur la CMU, on a très peu de choses. Quand on est du Covid, on ne sait rien. On sait un petit peu sur la santé dentaire, sur la CMU, mais c'est pas, les études empiriques ne sont pas du tout convaincantes. Alors, donc on peut quand même regarder ces questions-là, même en sachant que, en sachant qu'on ne sait pas grand-chose, mais en regardant sur le reste à charge, et au moins de regarder la distribution, la répartition de ce reste à charge sur l'ensemble des assurés et sur les ménages. Alors quand on parle de reste à charge, il faut s'entendre, parce que reste à charge, on voudrait vraiment regarder ça au niveau de ce qui sort de la poche des gens, c'est-à-dire la dépense après prise en charge par la sécurité sociale et remboursement par les complémentaires. Ça, c'est le vrai reste à charge. Ça, on n'a pas d'information non plus là-dessus, à un niveau détaillé, à un niveau micro. Et je reviendrai un petit peu là-dessus dans une seconde. Mais ce qu'on peut regarder, c'est la part du coût des soins qui n'est pas prise en charge par la sécurité sociale, c'est-à-dire avant remboursement par les complémentaires. Je rappelle juste quelques chiffres sur qui viennent des comptes nationaux de la santé pour caler un peu les grandes masses. Donc là, on a la structure du financement de la dépense de soins. Vous voyez que vous avez la part prise en charge par la sécurité sociale, ce qu'on peut appeler le pseudo reste à charge, c'est-à-dire avant la prise en charge par les complémentaires. Et puis ensuite, les autres dispositifs complémentaires, qu'ils soient mutuelles, sociétés d'assurance, institution de prévoyance et la CMU complémentaire également. Puis ensuite, on a le vrai reste à charge, c'est-à-dire ce que les gens sortent de leur poche. Hein. Et on voit que c'est très différent selon le type de soins. L'hôpital, essentiellement, c'est la Sécu qui paye. Le pseudo reste à charge est assez réduit. Et une fois qu'on a pris en charge les remboursements, essentiellement du forfait hospitalier par les mutuelles, par les complémentaires, on a un vrai reste à charge qui est assez réduit, en tout cas en proportion de la dépense hospitalière. En revanche, là où on a un reste à charge relativement élevé, et surtout un pseudo reste à charge qui est particulièrement élevé, et il faut dire une chose, c'est que c'est particulièrement élevé en comparaison internationale. C'est-à-dire que l'assurance maladie publique en France rembourse assez peu par rapport en moyenne, si on compare par rapport aux pays riches, la dépense de soins, en tout cas la dépense de soins ambulatoires. Donc on a quand même à peu près un tiers qui est du pseudo reste à charge, c'est-à-dire avant la prise en charge par les complémentaires. Maintenant, ça se répartit de manière là, tout simplement, on n'a pas d'informations qui permettraient de regarder à un niveau très fin comment ce reste à charge, ce que j'ai appelé le vrai reste à charge, se répartit entre les différentes personnes. Donc on va regarder le pseudo reste à charge, c'est-à-dire la part non prise en charge par la sécurité sociale. Donc je vais présenter des données qui permettent de regarder ça, qui viennent d'une mémoire de master d'un étudiant de l'HSS, qui porte sur le ticket modérateur en médecine de ville. Ce qu'il faut voir simplement, et peut-être que je m'arrêterai là, si je suis trop contraint par le temps, si je me donne encore 2 minutes, je continuerai un petit peu. Mais on essaye de voir la distribution, la manière dont se répartit ces choses-là. Alors pour ça, il faut regarder les différents déciles. En fonction des différents déciles de revenus, c'est-à-dire ce qu'on appelle D1, ça va être les gens qui dépensent, dont la dépense est la plus faible, donc les 10% de dépense la plus faible, et puis les gens dont le dernier décile, c'est-à-dire les gens dont la dépense est la plus élevée. On peut classer ça en fonction de la dépense de soi, on peut classer aussi la population en termes de revenus, c'est ce qui est plus classique. Vous avez les 10% les plus pauvres et les 10% les plus riches. Ben, si on classe en fonction du revenu, on voit que le ticket modérateur au sein de la population la plus pauvre, les 10%, donc les plus pauvres, représente 3% du revenu. Là, on parle uniquement du ticket modérateur sur la médecine du ville, qui représente en dépenses, avant prise en charge par les complémentaires, 3,4% du revenu, ce qui est très élevé. D'accord ? Or, en plus, on sait que cette population la plus pauvre est beaucoup moins souvent couverte par des complémentaires que la population, que les ménages les plus riches, notamment lorsqu'on est juste au-dessus du seuil de CMU complémentaire. Donc, en revanche, pour le dernier décile, c'est-à-dire les plus riches, le ticket modérateur représente un 0,5% du revenu. Donc, vous voyez qu'on est en train, lorsqu'on parle du ticket modérateur, de parler d'une chose qui pèse beaucoup plus sur les pauvres que sur les riches. Première chose. Deuxième chose, si on regarde ce mécanisme de remboursement. Donc maintenant, on va regarder non pas les pauvres et les riches, mais les gens qui dépensent peu et les gens qui dépensent beaucoup. Ben, les gens qui dépensent peu et les gens qui dépensent beaucoup, et là, il faut regarder sur ces données, il faut distinguer les personnes qui sont couvertes par, qui sont en affection longue durée et les personnes qui ne sont pas, parce que si on a des profils de consommation et des niveaux qui sont totalement différents. Si on regarde en termes de dépenses, eh bien évidemment, les personnes en ALD dépensent beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il y a quand même 10% des personnes en ALD qui ont une dépense de soins supérieure à 6 500 et quelques euros dans l'année. Donc on a des gens qui sont potentiellement très malades. Si on regarde maintenant ce qui arrive au reste à charge, c'est-à-dire ces chiffres-là sont des dépenses de soins qui sont pour l'essentiel prises en charge par l'assurance maladie, eh bien évidemment l'assurance maladie redistribue énormément, couvre beaucoup cette dépense de soins et heureusement elle est là pour ça. Mais ce qu'on voit quand même, c'est que même pour les personnes, si on compare les personnes qui sont en ALD et les personnes qui ne sont pas en ALD, eh bien les personnes en ALD, il y en a quand même 10% qui doivent sortir de leur poche avant remboursement par les complémentaires, plus de 600 euros par an, alors que les personnes qui ne sont pas en ALD doivent sortir de leur poche plus de l'ordre de 400 euros. Donc même la sécurité sociale, dont on dit qu'elle couvre essentiellement, qu'elle se concentre de plus en plus sur les ALD, couvre mal le ticket modérateur des personnes en affection longue durée. Je pense qu'il faut quand même le rappeler. C'est pas... Alors juste, je termine. Comment on peut essayer de faire mieux que ça? Donc le ticket modérateur, très mauvais instrument. Très mauvais instrument pour les effets incitatifs, parce que ça ne marche pas, on pourra développer ça dans la discussion. Très mauvais instrument parce qu'il laisse payer une part importante de la dépense à des gens qui manifestement sont malades et ont une dépense élevée. Comment on peut essayer d'améliorer les choses? On a beaucoup parlé des boucliers sanitaires ou autres. Ça, c'est une part importante, mais c'est un bout de la ficelle qui permet, effectivement, qui permettrait d'améliorer la couverture en charge des gens la prise en charge de gens qui dépensent beaucoup dans l'année. Parce qu'au bout d'un certain, une certaine dépense, eh bien, toute la dépense serait remboursée. Donc on aurait un reste à charge qui serait par construction, qui serait garanti, on serait sûr de ne pas dépenser plus qu'une certaine somme. Comment financer un tel dispositif? C'est là qu'on peut avoir l'idée d'un mécanisme de franchise, mais qui ne serait pas l'usine à gaz actuelle, ce serait un mécanisme de franchise beaucoup plus simple, avec un mécanisme de franchise annuel, c'est-à-dire que les premiers euros jusqu'à un certain montant, eh bien, vous les payez de votre poche. Alors évidemment, c'est pas très... Le côté plafond est facile à voir, le côté franchise, beaucoup moins, puisque ça veut dire... Alors, pourquoi un tel dispositif? Parce qu'il aurait un intérêt à la fois en termes de, on va dire, de responsabilisation de l'assurer sur les petites dépenses qui sont des dépenses qui n'ont, pour une bonne partie d'entre elles, assez peu d'impact sur l'état de santé, et en revanche une couverture bien meilleure que celle du système actuel sur les dépenses très élevées qui, elles, sont des dépenses qui sont probablement en moyenne, toutes choses égales par ailleurs, beaucoup plus utiles pour la santé. Pour caler, donner l'ordre de grandeur d'une telle réforme, avec une franchise à 100 euros, on pourrait financer un plafond à 330 euros, c'est-à-dire qu'en imposant aux gens de payer les 100 premiers euros sur le ticket modérateur en médecine de ville, on pourrait garantir à tout le monde que personne ne payerait plus de 330 euros de sa poche dans l'année. Voilà, je m'arrête là.
Merci. Je vais prendre la parole.